Déjà de retour aux amateurs de sport et sans plus tarder, parce que quand on l'entend à cette heure-là, le vendredi soir, on se dit que le week-end est pas loin. Philippe Quentin qui est là. Bonsoir, Philippe.
Salut, Mario.
Ah, j'aime beaucoup les discussions là qui commencent et qui tournent autour de Connor McDavid et Austin Matthews, même Sidney Crosby, qui est le meilleur. Et y a une rivalité qui se dessine d'ailleurs depuis qu'ils ont mis le pied ou le patin dans la Ligue nationale. Une grande rivalité qui est bonne pour toute la ligue au complet, pour le hockey en général. Hein?
Tout à fait. Il y a tellement de talents jeunes qui est en train de rebâtir une nouvelle Ligue nationale. Puis on le voit, c'est plus axé sur l'offensive, sur la rapidité. Puis au cœur de ça, il y a des jeunes formidables comme Connor McDavid et Austin Matthews. Alors, faut pas se surprendre que là, le débat est lancé. Qui est le meilleur? Est-ce que c'est McDavid? Est-ce que c'est Matthews? Ou c'est encore le, entre guillemets, vieux Crosby à 31 ans? Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant cette semaine, Mario. D'abord, Crosby qui a été interrogé par NHL.com, il dit, ben non, il dit, le meilleur, c'est McDavid, c'est sûr, il a gagné des trophées, le championnat des marqueurs, mais on connaît tous, évidemment, Crosby, là, il fallait qu'il s'exclue de la question en répondant à ça. Mais Mike Babcock a répondu, l'entraîneur des Maple Leafs de Toronto, à la même question un petit peu plus tard cette semaine, puis lui, il a dit, ben non, le meilleur, c'est encore Sidney Crosby, il a gagné 3 fois la Coupe Stanley, il a des médailles olympiques, c'est lui le meilleur. Alors, ça fait quand même un débat intéressant.
Ben, je comprends donc, c'est intéressant. Et il y a un peu de comment dirais-je? Je dirais pas de politique, mais personne ne veut froisser l'autre. Il y en a qui se le permettent de le faire. Lars Eller, lui, est assez lousse cette année. Ça va narguer le banc des Browns, puis après ça, il mange quelques marnifs de Marchand. Mais au-delà de ça, il dit, ah, les livres, c'est rien là, à comparativement aux Pingouins. T'as Mark Scheifele des Jets de Winnipeg, qui aussi s'est positionné là-dedans en parlant de McDavid, qui est une coche en avance. Et là, ben, Babcock, lui, veut pas froisser son joueur. Déjà, qu'il y a eu des relations à réparer l'été dernier. Lui, il s'en est bien tiré en disant Crosby. Crosby, c'est comme... Il est au-dessus de la mêlée, lui.
Voilà. Et moi, je suis pleinement d'accord avec Mike Babcock. Je trouve que c'est comme à la boxe. Tu sais, quand t'as un championnat mondial des poids lourds ou peu importe la catégorie, pour battre le champion, là, faut que tu remportes le combat. Un match nul, c'est pas suffisant. Mm-hmm. Mais je trouve que Crosby, là, il y a personne qui l'a battu encore. Il a gagné des Coupes Stanley. Ses triomphes sont très récents. C'est pas les Pingouins qui sont champions en titre de la Coupe. Bien sûr, ce sont les Capitals de Washington. Mais ils ont gagné au cours des 2 années précédentes. Crosby a été au cœur de ça. Il a effectivement ses médailles olympiques. C'est un joueur exceptionnel là, à tout point de vue, le joueur d'une génération. Et pour moi, un des critères pour qu'un jour on dise de McDavid et de Matthews qui sont dans la catégorie d'un Sidney Crosby, il va falloir qu'ils mènent leur équipe à la Coupe Stanley. Ça, pour moi, c'est quand tu es un grand joueur, il faut que ça fasse partie de ton curriculum. Voilà, exactement. Il faut que ça devienne, que ça fasse partie de ton curriculum vitae. Si tu es un très grand joueur, tu as eu toutes sortes de malchances dans tes carrières. Tu t'es aligné avec des équipes qui étaient mal dirigées, des directeurs généraux qui n'avaient pas de vision, des entraîneurs qui ne l'avaient pas trop, des coéquipiers qui étaient décevants. C'est vraiment dommage parce qu'il te manque ce titre-là à ta carrière, mais ça fait partie de l'équation. Et pour moi, les plus grands joueurs, ceux qui marquent leur époque, à quelque part, il faut qu'ils remportent la Coupe Stanley au moins une fois. On leur demande plus aujourd'hui de la gagner 5 fois comme à la belle époque ou dans des longues carrières. Mais une fois, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel et je pense qu'il faut qu'ils le réussissent. Et pour moi, tant que McDavid n'aura pas fait ça, tant que Matthews n'aura pas fait ça, ils ne sont pas tout à fait encore au même niveau. Ils auront encore des croûtes à manger. Cela dit, on le sait tous, là, ce sont des joueurs exceptionnels. Hier soir, encore McDavid, je ne sais pas si tu as vu sa performance contre Boston. Le but en prolongation, ce n'est pas lui qui le marque, c'est Draisaitl, mais c'est lui qui fait tout le jeu, un jeu absolument magique, qui est extraordinaire. Mais, encore une fois, là, on parle de matchs qui vont aider à bâtir la saison, mais c'est en séries éliminatoires, c'est en finale de la Coupe Stanley, puis c'est quand on soulève le trophée qu'on bâtit les légendes des plus grands joueurs, à mon avis.
McDavid a déjà 11 points en 5 petits matchs jusqu'ici et il rejoindra très rapidement Austin Matthews au sommet en ce moment avec 16 points, lui, en 8 parties.
C'est quand même extraordinaire. Hein? La Ligue qui rajeunit à quelque part. Il y a tellement de bons jeunes joueurs. Je trouve que les matchs sont plus excitants
cette saison. Et le
règlement,
tu sais, Philippe, on a souvent critiqué la Ligue nationale, là, mais permets-moi, j'en discutais plutôt cette semaine avec Paul Oud et Danny. Le fameux règlement de cinglage là, qui, entre autres, permis à Jonathan Drouin d'y aller dans un tir de pénalité. Ça a vraiment permis, ça permet de plus en plus aux talents de s'exprimer. Je regardais les championnats des marqueurs des 20 dernières années, puis le plus haut total de points recueillis par un individu faut remonter justement à 20 ans, Jagr, avec 127 points. Ouais, ouais. Ça fait longtemps là, qu'on n'a pas eu des chiffres qui vont au-delà de ça. Je ne sais pas si c'est cette année qu'on va le dépasser, ce cap-là, mais je pense que la table est mise
par rapport serait bien, à une grosse production
offensive. C'est excitant, puis on aime ça. Ouais. Si tu viens des courses aux meilleurs marqueurs, qu'on aimait ça, regarder ça.
Et
Matthews McDavid, c'est ça qui va se produire. Mais est-ce que ça veut dire que si ces joueurs de génération-là là, gagnent nécessairement la Coupe cette année, qu'on peut dire, toi et moi, que dans les 10 prochaines années, Toronto va gagner la Coupe?
Ah, ben, ça, pour moi, ça fait pas de doute.
Écoute, Edmonton?
Ben oui, je pense que oui. Je pense que ce sont des équipes qui ont tous les atouts pour le faire.
Qui d'autre? Admettons, si tu vas avec
Je pense que Winnipeg. Je pense que Winnipeg, avec Patrick Laine, avec Shifley, dont tu as parlé tantôt, ils ont tellement une équipe qui est solide, qui est prometteuse. Ils ont un excellent gardien de but qui est sous contrat pour longtemps aussi. Je trouve que ça, ce sont des équipes qui sont vraiment sur la lancée. Et c'est assez intéressant de noter, Mario, je sais pas
trois équipes canadiennes.
Ben voilà, voilà.
Il y a c'est le talent,
oui. Ben oui, tout à fait, c'est là que j'allais. Le Canada n'a pas... Aucune équipe canadienne n'a remporté la Coupe Stanley depuis le Canadien en 1993. Il y a de ça 25 ans. Et là, tu regardes l'avenir, puis tu regardes qui sont les puissances de la Ligue nationale en devenir, celles qui sont en train de se développer, qui vont dominer à toute fin utile la Ligue nationale au cours des prochaines années. Et ce sont les Maple Leafs de Toronto, les Jets de Winnipeg et les Oilers d'Edmonton. Donc, on pourrait assister enfin à un revirement de situation. Puis moi, je trouve ça important, parce que c'est important que les équipes canadiennes aient du succès. C'est important qu'elles établissent que... c'est pas seulement des machines à générer des revenus, à générer des gros contrats de télé, puis à vendre des loges corporatives, puis à avoir le plus grand nombre de billets de saison. C'est important qu'elles aient du succès sur la patinoire aussi. Et je pense que toute l'influence que tu peux exercer dans la Ligue nationale, quand tu es une organisation qui a du succès commercial, mais qui a un succès sportif, elle est bien plus vaste que quand, par définition, quand tu n'as pas de succès. Alors, pour moi, ça, c'est quelque chose de fondamental. J'ai trouvé ça dommage au cours des dernières années de voir que les équipes canadiennes, parfois, sont pas assez proches. On se souvient, les Canucks de Vancouver sont venus prêts, tout ça en 2011, si ma mémoire est bonne. Mais, tu sais, dans le sport, on le sait, hein, venir prêt, c'est pas suffisant. Il faut que tu gagnes. Puis là, ça serait le fun d'avoir une équipe canadienne réussir. Et je pense qu'il y en a trois qui sont magnifiquement positionnés pour le faire.
Un peu de tennis avec toi ce soir. Ouais. Des signes encourageants pour Eugénie Bouchard, mais qui n'a pas été en mesure de concrétiser lors du grand match.
Voilà. C'est deux signes. Alors, juste pour remettre
les
gens dans le bain, voilà, exactement. C'est le tournoi du Luxembourg aujourd'hui qui se poursuit, va se terminer en fin de semaine. C'est quoi ce tournoi-là? Bien, en termes de points là, et de bourse, c'est semblable à celui de Québec là, qui a lieu au mois de septembre. Alors, donc, c'est pas un des plus grands tournois, mais quand même, il y a des bonnes joueuses qui sont là et Eugénie Bouchard, en fait, s'est qualifiée. D'abord, elle n'était pas qualifiée d'office. Elle a réussi à mériter sa place. Et là, elle a fait un beau parcours. Elle a remporté des victoires convaincantes à ses premiers matchs. Mm-hmm. Et aujourd'hui, elle se retrouvait en demi-finale. Et là, écoute, elle gagne le premier set 7-6 au bris d'égalité. Elle mène 5-4 au deuxième. Elle sert pour le match et elle a été incapable de concrétiser sa victoire à ce moment-là. Son adversaire, c'était l'Allemande Julia Gerges, qui est revenue, qui a gagné les trois jeux suivants, donc qui gagne le deuxième set pour égaler les chances. Et au troisième set, on sent que ça, c'est rentré dans le moral d'Eugénie Bouchard. Et là, Gerges a filé avec la victoire avec un 6-1 dans le dernier set. Alors, donc, il y a deux choses là-dedans. D'abord, la bonne nouvelle, comme tu l'as dit, c'est que enfin, un rebond. Puis un rebond en fin de saison, c'est le fun parce que ça signifie que peut-être qu'elle va amorcer l'entre-saison avec un peu plus de quiétude d'esprit face à son rendement. Mais en revanche, il y a encore du travail à faire. Là, c'est clair que ça, là, aller tout à coup, là, quand tu sens que la victoire est à portée de main, mais aller concrétiser cette victoire, là, c'est toujours ce qui est le plus difficile.
Ah,
et
oui.
Surtout pour un joueur ou une joueuse qui éprouve des ennuis. Là, tu sens que c'est à portée de main. Il faut juste que tu donnes le petit coup supplémentaire. Et peut-être un mauvais coup quelque part, une malchance. Chance, puis là, tu sens que le match t'échappe, puis tu n'es plus capable de reprendre le contrôle de cette rencontre-là. J'ai pas vu la rencontre, là. Je le dis, je regarde un peu comment ça s'est passé, puis on a vu assez de sport pour comprendre un peu comment ça se passe. Et quand tu perds le dernier set 6-1 après t'être fait remonter comme ça dans le deuxième set, c'est signe que ça a été plus difficile.
Baseball, un gros match ce soir, match numéro 6 de la série de championnat dans la Ligue nationale entre Milwaukee et les Dodgers. Par ailleurs, les Red Sox qui ont atteint la série mondiale, une belle
quelle
victoire
équipe.
Hier, mais c'est difficile parce que les Astros me semblaient invincibles avant les séries. C'est difficile de gagner deux séries mondiales de suite, Philippe. Hein?
C'est incroyable. Il y a plusieurs commentateurs aux États-Unis qui notaient ça hier, Mario, puis c'est pour ça que je veux en parler rapidement. Au baseball, là, il n'y a pas une équipe qui a remporté deux séries mondiales consécutives. consécutive depuis les Yankees de New York, qui en avait remporté 3 d'affilée en 1998, 1999 et 2000. C'est le sport où ça fait le plus longtemps qu'une équipe n'a pas remporté 2 titres consécutifs. Au hockey, on s'en souvient, les Penguins de Pittsburgh, 2016-2017. Au basket, ben, ceux qui suivent le basket savent que les Warriors de Golden State sont impériaux, 3 championnats en 4 ans, dont les 2 derniers. Dans la Ligue nationale de football, ça fait quand même assez longtemps aussi. C'est 2004-2005, bien sûr, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui avaient remporté. Ils en ont remporté d'autres depuis ce temps, mais jamais 2 années collées. Alors, on voit combien c'est difficile d'être champion en titre. Et c'est difficile parce que souvent, ben, les joueurs ont tellement donné l'année précédente, tu sais, que retrouver ta concentration, retrouver tes repères, être prêt à donner un effort aussi colossal, ça peut prendre un peu de temps. Puis si l'année suivante, après avoir gagné le championnat, ben là, tu gagnes pas. Là, l'année subséquente, tu te souviens c'était quoi la sensation de gagner? Puis tu disais, hey, moi, je veux revoir ça, je veux revivre ce sentiment-là. Puis j'ai l'impression que c'est ce qui explique que des équipes comme les Giants de San Francisco Baseball, ils ont gagné une année, ils ont perdu l'autre, ils ont gagné, tu sais, ils ont gagné en 2012, 2014, 2016, ils ont perdu les années impaires. On va voir comment Washington, les Capitals, vont composer avec le titre de champion en titre cette année, mais en coller 2 d'affilée, c'est très difficile, peu importe le sport. Alors, quand on regarde les Warriors de Golden State qu'ils font au basket, c'est quand même absolument invraisemblable.
Est-ce que le Canadien va en coller une 4e de suite avant qu'on se quitte pour le week-end, Philippe?
Ben, écoute, contre Ottawa, et tu sais, c'est malheureux pour Ottawa qui perd son bon jeune joueur pour un mois, le Brady Kachuk.
Ouais.
Je les trouve tellement malchanceux, Ottawa. Il y a des
malchances. Autres, juste, tu fais la liste, là. Je te dis qu'on va avoir besoin de deux feuilles, certains, là.
Ouais, c'est ça. Il y en a, ils sont un peu les artisans de leur propre malheur, là, avec les déclarations intempestives d'Eugene Melnick, puis des échanges qui sont pas toujours à propos. Mais tu te mets un peu dans la peau des fans des Sénateurs qui disent, hey, quand même, on va se tenir derrière notre équipe cette année, on va s'accrocher à l'espoir. Puis là, Brady Kachuk, c'est l'espoir numéro 1. Il n'y a pas 2 semaines de jouer dans la saison. Bang, t'apprends qu'il est absent 1 mois. Ça fait mal au moral. Alors, on va voir comment les Sénateurs vont composer avec cette haute difficulté. Mais le Canadien joue du gros hockey, du hockey inspiré. Et franchement, c'est toute beauté de voir l'énergie qui est déployée par le Canadien depuis le début de la saison.
Oui, vraiment. Philippe, sur ça, je te souhaite une belle fin de semaine pour plaisir de te reparler dès lundi, mon cher.
Tout à fait. Salut, Mario. Bon
merci.
Week-end.
Bye-bye. Toujours très agréable, évidemment, avec l'ensemble de nos collaborateurs. Un gros merci à Philippe. Dans quelques instants, Jacques Villeneuve sera là pour nous parler du Grand Prix des États-Unis à Austin, au Texas. Vincent Destouches qui va commenter la situation de l'Impact, qui n'est guère inspirante en ce moment. Alors, on commence déjà à penser à la saison prochaine, à moins qu'il se passe quelque chose de magique qui permette à l'Impact de se faufiler. Et tout de suite après la pause, il sera question du Canadien avec Marc-Antoine Godin.